Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto tous les dimanches de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Bonjour Christine.
Bonjour Lannick.
Bonjour, première manifestation hier, tout jeune permis, la première manifestation de ta vie de motarde alors.
Eh bien oui, une première et vraiment beaucoup de monde à cette manifestation, c'était vraiment super pour une première.
Alors ils ont annoncé 2000 participants hier, c'était énorme.
Oui effectivement, puisque Arras est venu nous retrouver, donc ça fait à peu près 2000 personnes, c'était vraiment super.
Alors si on aura le temps, tout à l'heure on aura le coordinateur de la Fédération Française des Motards en Colère qui a organisé cette manifestation, on l'aura au téléphone. Mais aujourd'hui, le sommaire est au menu de cette émission. Nous avons rendez-vous avec notre ami Guy Pilarczyk pour le tout-terrain. Bonjour Guy.
Bonjour la biche. On va faire un bilan des motocross Grand Prix, des motocross des nations, du supercross, des 6 jours internationaux. Et on aura au téléphone des personnes quand même assez impliquées dans ce sport. D'abord Pascal Audiquer, qui est journaliste spécialisé dans le motocross. Et ensuite, nous irons à Berck, parce que le Beach Cross, c'est le championnat de France de course sur sable qui débute. Et on aura Patrick Laboureux, qui est vice-président de la FFM et président de la commission course sur sable.
Alors, le motocross des nations, ça se passe à Ernée.
À Ernée.
Ernée, c'est où ?
En Mayenne.
C'est en Mayenne.
Alors, j'ai regardé 40 000 spectateurs pour un motocross. C'est énorme, Guy.
Mais oui, mais écoute, tout dépend des journaux parce que ça va de 30, 40 ou 50 000.
C'est un peu comme les manifs, quoi.
C'est, ouais,
de
voilà.
Côté, l'organisateur, c'est 20 000, mais du côté de la police, c'est 15 000.
Mais suivant les. C'était retransmis en direct, il y avait au moins 40 000 personnes.
Non, mais c'est quoi, même 35 000. Hein,
même
35
000,
c'est pas mal. Hein. Il y a beaucoup de présidents de clubs qui organisent des crosses qui aimeraient avoir autant de spectateurs.
Ils doivent en pleurer.
Oui, c'est bien. Et nous allons présenter notre cher ami. Alors, je ne sais pas si on doit redire un peu.
Non, tu dis rien.
On dit bien. Rien. Bon, d'accord. Notre technicien émérite. Hein, et puis.
Tu dis rien. Ça fait tout seul.
Voilà. Allez, on va envoyer le premier morceau de musique et on se retrouve forcément après. Over me.
water he got, early warning he got, muddy water he want, mojo filter he say, one and one and one is three. Got to be good looking cause it's so hard to see. Come together right now over me.
Terrain à l'honneur aujourd'hui dans l'émission des motards du dimanche matin avec Guy Pilarczyk.
Oui, alors nous avons un spécialiste du motocross GP à l'antenne, au téléphone. Bonjour Pascal.
Bonjour Guy.
Bonjour Pascal. Je te disais que tu avais un peu la voix enrouée parce que tu avais été à un mariage de Xavier Bogue, du champion de France, n'est-ce pas? Tu as bien chanté, voilà.
Ouais, on a passé une bonne soirée, c'était un bon moment de détente, je pense que la saison était longue pour tout le monde et Xavier était là, il y avait aussi Benoît Paturel, il y avait Maxime Després, il y avait d'autres pilotes de haut niveau et oui, on a passé une bonne soirée.
Ah bon, ben c'est... Donc tu es en phase de nous commenter le MX GP saison 2015. Alors je rappelle rapidement le classement des trois premiers, Romain Fèvre, révélation sur Yamaha avec 735 points. Deuxième, aussi un Français, Gauthier Paulin sur Honda, 592 points. Et troisième, Eugénie Bobriechev, c'est un Russe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de Russe sur un podium. Il faut remonter au moins à 30 ans pour voir Gunadi Moseyev, n'est-ce pas Pascal?
Oui, ça nous rajeunit un petit peu, Guy, hein, l'époque des Grands Prix 250 où Moseyev dominait la catégorie. Et puis il y a une grosse éclipse et Bobriechev a relevé le niveau russe. Donc un beau podium pour lui.
Voilà. Alors un mot sur Romain Fèvre. Vraiment, il a explosé cette année parce que presque inconnu l'année dernière.
Ouais, presque inconnu, c'est peut-être un peu beaucoup puisqu'il avait fait troisième du championnat du monde en gagnant le Grand Prix du Mexique, mais ce qui est sûr, c'est que personne l'attendait à ce niveau-là. Romain est né un 31 décembre. À un jour près, il a été obligé de changer de catégorie puisqu'il y a une règle d'âge limite de 23 ans en MX2. Il est monté un peu contraint et forcé et finalement, il a surpris tout le monde parce que, comme tu l'as dit, hein, personne l'attendait à ce niveau-là. Lui-même savait pas où se situer. Et puis quand il a commencé à gagner au Grand Prix de France, eh ben, la machine s'est mise en route et 8 victoires en Grand Prix, un titre mondial acquis haut la main, domination motocross des nations. Et il a fait une saison extraordinaire et c'est bien de voir qu'un jeune qui a pas forcément un immense talent mais qui est un gros travailleur, eh ben, parvient à s'imposer au plus haut niveau de la compétition.
En effet, mais étant donné qu'il y avait quand même pas mal de blessés, il y avait Maximilian Nag, l'Allemand, Antonio Caroli, blessé au coude, Clément Delsal à l'épaule, et Ryan Vuopoto, c'est le coccyx. Bon, si ces pilotes étaient en pleine forme, est-ce que Romain aurait aussi, haut la main, remporté le championnat du monde?
Ah, écoute Guy, on aura peut-être la réponse en 2016 hein, quand ils seront tous là. Ce qui est sûr, c'est que quand Romain a commencé à gagner, en Angleterre, ils étaient à part Villopoto, ils étaient tous là. Dozal était là, Caroli était là, et Nagel était là. Il a gagné. Je pense que Nagel a pas su tenir la pression parce qu'il a fait une grosse erreur chez lui en Allemagne et une faute de pilotage. Donc derrière Romain, comme il le dit lui-même, quand il est arrivé en Grand Prix MX2. La deuxième année, il était deux du championnat du monde et il s'est blessé. Donc la blessure, elle fait partie du sport. Ceci étant, quand on voit comment Romain roulait en fin de saison, soit aux États-Unis, au Mexique ou aux Nations, il a encore une grosse marge de progression, donc ça va rester quand même le favori du championnat du monde l'année prochaine.
L'année prochaine.
Après, la saison va être longue. Kéroli va avoir à cœur d'essayer de regagner son titre, mais je pense que ça va être compliqué parce que Kéroli commence à, quand même à vieillir, mine de rien. Et puis Romain a apporté du 109, donc il n'y aura pas l'effet de surprise en 2016, ça c'est sûr, mais c'est évident que ça sera un client pour le titre. Et on a vu cette année que même quand il est en tête du championnat du monde, même quand il a le pack rouge leader, et ben ça change rien à son approche de la course. Il est toujours aussi détendu. Son patron, qui est Michele Rinaldi, me le disait, il n'a jamais géré dans sa carrière un pilote aussi insensible à la pression. Donc espérons que ça va continuer pour lui, parce que Romain n'a que 24 ans, donc il a encore plein de belles années devant lui.
Bien, donc c'est vrai que c'était vraiment la révélation de cette année quand même, hein, Romain.
C'est clair, tout le monde attendait le duel Cairoli-Villopoto avec éventuellement Gauthier Paulin, Clément Dezal en arbitre. Et puis finalement, Nagel a surpris au premier grand point pendant la plaque rouge. Après, c'est Dezal qui s'est retrouvé en tête, Cairoli l'a pris. Et puis finalement, la saison, c'est Romain qui s'est imposé. Et au début, on s'est dit, il a gagné un grand prix en France, ok. Et puis il a confirmé, il a gagné un deuxième, un troisième, un quatrième. Et après, il a une soif de victoire incroyable parce qu'il a été champion du monde à Assen aux Pays-Bas. Il restait deux grands prix. Et les deux grands prix qu'il restait, il les a gagnés. Il n'est pas allé là-bas pour se reposer. Et c'est une belle image que donne ce pilote vosgien.
Et même gagner une manche aux USA.
Heureusement qu'il était là, parce que sinon on se prenait des culottés, les Européens, parce que les Américains, les meilleurs Américains n'étaient pas là. Il n'empêche que les Américains, sur leur terrain, qu'ils connaissent comme leur poche de Glen Helen, dominaient. Et il a fallu que Romain aille chercher la victoire. En plus, avec un dépassement en première manche qui restera dans l'histoire. Il a dépassé Cooper Webb en bas d'une descente à l'extérieur. Un truc que personne ne pensait qu'on pouvait doubler à cet endroit-là. Quoi.
D'accord. Pascal, on va passer en MX2. Hein, 18 Grands Prix comme en MX GP. C'est un Slovaque, Tim Geiser, c'est ça. Deuxième, c'est un Letton, Paul Jonas. Et troisième, un Anglais, Max Anstey. Je voulais te demander, Jeffrey Erling, le Hollandais. Il avait eu la prétention de gagner déjà l'année dernière et cette année tous les Grands Prix. C'était pas un peu prétentieux de lui, non ?
Disons qu'il gagnait tellement facilement qu'il s'est mis ce challenge-là. Il l'a perdu, ça fait 2 ans qu'il le perd. L'année, à chaque fois sur blessure. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Erling, c'est un jeune. Il a commencé très très jeune le motocross à haut niveau. À 15 ans, il était déjà pilote professionnel. C'est un mec qui s'entraîne, on va pas dire jour et nuit, mais qui s'entraîne vraiment énormément. Donc, qui a très vite progressé. Et aujourd'hui, il progresse un petit peu moins vite puisqu'il est pas loin de son, même s'il est pas encore à son maximum, il n'en est pas loin. À côté de ça, les autres se sont mis au boulot, que ce soit les pilotes ou les usines, parce que KTM dominait tout, Honda s'est réimpliqué officiellement, Yamaha a remis aussi des moyens importants, Kawasaki pareil, donc il y a une compétition à la fois des constructeurs et des autres pilotes, et voir Geiser et Jonas, ils ont tous les deux moins de 20 ans, dominer. Se battre pour le titre mondial, c'est bien, c'est aussi une nouvelle relève des pays de l'Est, parce que des Slovènes champions du monde n'avaient jamais vu, des Lettons se battre pour un titre mondial n'avaient jamais vu. Erlings restera l'année prochaine, on ne sait pas s'il roulera en MX2, MXGP, l'un des hommes à battre, mais il n'est plus aussi intouchable, et je pense que depuis 2 années, il cumule les blessures, et sa confiance a été ébranlée par tous ces accidents. Il a voulu, à mon avis personnel, il a voulu un peu trop en faire, venir rouler qu'un doigt cassé, rouler qu'une clavicule cassée, ça s'est mal terminé pour lui, et il aurait peut-être dû un petit peu mieux gérer sa saison, son avance, il avait plus de 100 points d'avance à un moment. C'est mon analyse, c'est peut-être pas la bonne, mais il est sûr que Erlings a un gros talent, un gros potentiel. C'est un caractère particulier, assez ingérable, puisqu'il écoute quasiment personne. Il n'en fait qu'à sa tête alors qu'il est très jeune. Et malheureusement, ça lui a pas réussi l'année passée, et ça lui a pas réussi cette année encore.
Pascal, on va passer un moment de musique et puis on partira à RD pour le Motocross des Nations.
Pas de soucis, Guy, à tout de suite.
There's a grave in the hollow hides, the loneliest of sins. They are waiting for their kingdom, waiting for their king. There's a hole in her soul where she swallowed
knows everything while waiting for the last goodbyes. Waiting for the last goodbyes. There's a hole to the sky, the rain is pounding in. A hole in the hollow where those mysteries begin. There's a tale of three lovers left twisting in the wind, waiting for the last goodbye. Waiting for the last goodbye. In riddles, it's a bet he cannot win. On a race he never counted on those gorgeous gypsy twins. You look around for grace, but all she offers is her grin. Riding on her billowed sails and sighs, while waiting for those golden lullabies. Waiting for the last goodbye. Them trade him for a handsome younger guy who's been waiting for the last goodbyes, the last goodbyes.
Consacré au tout-terrain aujourd'hui avec Guy Pilarczyk et Pascal Audiquer, qui est journaliste. Hein.
Pascal, tu es toujours à l'antenne ?
Mais pas de soucis, Guy, je suis toujours là.
Petite question sur en MX2, Jody Tixier, qu'est-ce qui s'est passé là ? Bon, suite à un changement de moto, mais il y a eu quelques problèmes déjà en Thaïlande, là, parce que. Un problème de.
Il a souffert de la chaleur, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les grosses chaleurs, et en Thaïlande, il a fait. Pas un coma, mais à l'arrivée de la Manche, avant l'arrivée de la fin de la Manche, il s'est écroulé parce que beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, et il n'a pas supporté, et il a fait un malaise. Et puis, il n'était pas dans son état normal, il y a eu une altercation avec le service médical, et puis il y a eu un geste déplacé, ce qui fait que la fédération l'a sanctionné d'un grand prix de suspension. Et bon, malheureusement, après, Jordi a refait des podiums, et puis il y a eu une mauvaise blessure en Italie où il s'est aux essais, il a fait une petite erreur de pilotage à l'appel d'un saut, et blessure, et donc il a raté la fin de saison. Il a tout à reconstruire l'année prochaine. Il passe en 4,5 en MXGP avec une Kawasaki usine.
D'accord.
Et puis espérons qu'il va retrouver le chemin des podiums et pourquoi pas de la victoire, même si ça va être compliqué en MXGP vu le nombre de bons pilotes qu'il y a.
Ok. Avant de parler du motocross des nations, un petit mot sur le mondial féminin. Livia Lancelot, vraiment pas de chance en Tchécoslovaquie avec une casse de, enfin, un problème de moto et elle a pas pu reprendre sa deuxième moto au parc.
Ouais, elle a eu un souci technique sur la moto pendant le tour de reconnaissance. Et malheureusement, alors elle a essayé de partir avec sa deuxième moto, mais c'était interdit par le règlement, donc les officiels l'ont empêchée de partir, donc elle n'a pas pu défendre, alors qu'elle était en tête du championnat, elle a raté la dernière manche et elle n'a pas pu défendre ses chances. Heureusement, on va dire, la fédération a réagi et a changé le règlement, donc à partir de l'année prochaine,
en effet, oui.
Après le tour de reconnaissance, un pilote sera autorisé à partir avec la deuxième moto. Comme ça se fait en MotoGP, comme ça se fait dans d'autres disciplines, quitte à partir des stands, par exemple en MotoGP, mais c'est un peu, voilà, il y a eu les règlements, le problème des règlements, c'est qu'ils sont souvent très vieux, et puis on les dépoussière pas. Là, l'important, c'est que la fédération, elle a bien réagi en changeant la règle. Ça change rien pour Livia, qui repart au titre mondial. Ce week-end, elle roule à Berck, d'ailleurs. Hein,
Oui, en effet.
On la verra au Supercross de Lille mi-novembre, parce que c'est une fille qui aime relever des défis. Elle sait bien que ce sera compliqué, mais voilà, Livia, écoute, elle repart l'année prochaine, toujours avec sa propre structure, et puis une expérience de plus, à la recherche de ce deuxième titre mondial.
Toi, bon, ce championnat se dispute en parallèle avec les championnats MXGP et MX2. Caria Fontanesi, vraiment un poil au-dessus de Lancelot ou pas?
Non, honnêtement, non. On dirait qu'elle est plus masculine. Elle prendra peut-être plus de risques. Elle a un pilotage peut-être plus agressif que Livia. Livia, elle a été en tête du championnat toute la saison. Elle a juste perdu le leadership à la dernière épreuve. Donc, c'est serré entre les deux filles. Elles sont nettement au-dessus de toutes leurs rivales. Après, Livia, sur un tour chrono, elle est moins vite que Chiara, mais sur une manche, il n'y a pas de souci pour elle. Elle en a gagné plusieurs cette année. Elle a gagné 2 Grands Prix. Donc, c'est vraiment serré, ça le sera encore l'année prochaine.
D'accord. Donc, du motocross féminin, il n'y a qu'un pas pour aller au motocross des nations qui s'est déroulé en Mayenne à Ernée. 31 pays, au départ. On parle de 30 à 50 000 personnes, toi qui étais sur place. Enfin, tu les as pas comptés, mais il y avait du monde. Hein.
Non, mais je connais le vrai chiffre puisque je connais bien les ordinateurs. Il y avait plus de 28 000 spectateurs payants, ce qui veut dire qu'avec tous les invités, les gens de l'industrie, les pilotes et tout, il y a plus de 35 000 personnes. Entre 35 et 38 000 dimanche, dans une ambiance de folie, honnêtement, Guy, on se connaît depuis très longtemps.
Ouais.
Plus de 30 ans que je suis la compétition, j'avais jamais vécu une telle ambiance avec un public qui se met à chanter la Marseillaise tout seul. Bon, c'était vraiment un week-end. On en a parlé longuement hier au repas de mariage parce que il y avait bien sûr plein de fanas de motocross qui étaient là, puisque Xavier est un pilote de motocross. Et tous ceux qui l'ont vu à la télé ou qui y étaient en parlent encore avec des frissons, tellement c'était un grand week-end.
Donc, Romain Fèvre, vedette à Ernée, n'est-ce pas?
Oui, il a fait comme Gauthier Paulin l'an passé en Lettonie, il a tout gagné, meilleur temps aux essais, il gagne sa course de qualification, il gagne les 2 manches, 2 belles passes d'armes, il a été le pilier de l'équipe de France, et il a conclu la saison en beauté. On l'attendait un petit peu à ce niveau-là, même si c'était la première fois qu'il disputait cette épreuve, qui est quand même assez particulière, parce que c'est une course par équipe, et il a été au rendez-vous.
Et c'est après la deuxième manche, c'est-à-dire c'est la troisième manche qui était décisive, sinon au bout de la deuxième manche, c'était les USA qui menaient de 1 point ou 2 points, je ne me rappelle plus.
Ils menaient de 2 points et comme le faisait remarquer Olivier Robert, l'ancien entraîneur national, puisqu'il a passé le manche à Pascal Finot, avant, quand on s'est arrivé à plusieurs reprises la France soit en tête après la deuxième manche et craque dans la troisième et perde l'épreuve, et ben cette année c'est l'inverse, elle était dominée par les Américains et dans la dernière manche, et ben c'est les Français qui ont été meilleurs que les Américains. C'est nouveau, c'est bon signe pour l'avenir, je pense, de voir qu'on a des troupes capables de supporter la pression, parce qu'il y avait une pression énorme sur l'équipe de France.
En effet, avec 14 points, les USA 16, alors la Belgique 56, c'est-à-dire que bon, les meilleurs guidons n'étaient pas là, enfin blessés. La Belgique, toi tu as vu rouler les Belges, pourquoi 3e?
Les Belges resteront toujours très forts en motocross. Ils n'avaient pas Clément Dezal, ils n'avaient pas Kevin Strijbos. Julien Libert, le pilote MX2, était handicapé par une blessure à la hanche, mais ils sont toujours là de toute façon. Par contre, habituellement, l'écart est quand même moins important. Là, à Ernée, il y avait vraiment les Français, les Américains et le reste du monde. Ils n'ont jamais pu se mêler à la victoire, mais ils ont été, une fois de plus, Joël Smet a bien driver son équipe et ils sauvent le podium, ce qui est, les Belges sont les recordman des podiums aux nations. Quand ils gagnent pas, ils sont toujours deuxième ou troisième. Ils sont toujours là et ils ont quand même des garçons d'expérience, Ken De Dijker, Jeremy Van Orvik, ils ont du métier et ils ont réussi à sauver. De Dijker est tombé en première manche, donc ça n'a rien arrangé. Liber a dû abandonner, donc c'est pour ça que le score final il est important. Ils ont marqué trop de points pour pouvoir jouer la première ou la deuxième place.
Ok, ben écoute Pascal, on va te repasser de la musique, tu ne raccroches pas et on va parler des ISDE. Donc tu étais sur place.
Pas de soucis.
À tout à l'heure.
till I meet my maker. It won't be long till his face I see. I'm gonna meet my maker, see the God who created me. I'll face my day of judgment, my sins I will confess. I'll face my day of judgment, see if I am cursed or blessed. Question, heaven is a tougher sell. Little doubt about the evil acting in this world today. Lots of doubt about the good things happening in the natural way. I've stumbled, I've fallen, drag myself back to my feet. I've staggered.
Tout terrain d'honneur aujourd'hui avec notre ami Guy Pilarczyk, avec aussi le journaliste au téléphone, Pascal.
Pascal, alors de Derné, nous partons en Slovaquie pour les ISDE, ex-ISDT, où la France a monté sur le podium. Explique ça, explique-nous comment la France a pu remporter, parce que il y a eu quelques petits problèmes au départ.
Ouais, alors disons que pour l'instant c'est clair que ça devient une habitude que la France gagne cette épreuve, puisque les Français l'ont gagné de mémoire ces 6 fois au cours des 8 dernières années. Et ils sont surveillés, ça énerve un petit peu tout le monde, de la même manière que quand Mercedes domine en Formule 1, ça énerve, et là les Français énervent un peu. Donc il y a eu un petit problème d'organisation le troisième jour, puisqu'à un moment le parcours était pas fléché, le parcours de liaison qui va d'une spéciale à l'autre. Et 9 pilotes, dont 3 Français, se sont perdus. Et quand ils ont repris la piste après avoir fait un grand détour, ils sont pas rendus compte, bien sûr, qu'ils ont loupé un contrôle de passage. Donc ils ont vu quelqu'un de la FIM qui leur a dit « Non, mais vous inquiétez pas, moi aussi je me suis perdu, allez-y, continuez. » Ils ont continué, et puis le soir, tard dans la soirée, on n'a pas eu les classements. Et quand les classements sont tombés sur Internet, il y avait les pilotes, 9 pilotes de disqualifiés, dont 3 Français, pour avoir loupé ce contrôle de passage. On leur a pas demandé comment ça s'est passé, on leur a demandé aucune explication. Donc Les officiels ont été un petit peu légers, ce qui fait que Jacques Boll, le président de la fédération, a décidé de faire porter réclamation. Il y a eu un appel de déposé qui sera jugé dans quelques semaines, qui est toujours, pour l'instant, les résultats sont officieux.
Ah d'accord.
Toujours est-il que vendredi, jeudi, les Français étaient toujours derniers. On leur a infligé une pénalité aux pilotes qui avaient loupé le CP, on leur a infligé une pénalité de 3 heures, ce qui est prévu dans aucun règlement. Et puis le vendredi soir, bah, la pénalité a disparu, on a fait un classement provisoire, on a remis les Français devant, puisque... Il faut savoir que mercredi soir, moi je l'ai vécu dans le Club France, l'ambiance était assez morose et certains pilotes parlaient de ne pas repartir le lendemain puisque l'équipe avait perdu toutes ses chances. Il y a Fred Veil, l'entraîneur national, qui a motivé ses troupes intelligemment. Tout le monde est reparti le lendemain, ils ont gagné jeudi, ils ont gagné vendredi, en étant plus forts que leurs adversaires. Et finalement, ben, samedi, ce sont eux qui se sont imposés. Alors ils se sont imposés devant les Australiens qui ont été très mauvais perdants. Et maintenant on attend l'appel. Quand l'appel sera jugé par la Fédération internationale, on saura si la France garde cette victoire.
Donc entre la France et l'Australie, seule une minute les sépare. Alors la France elle a comment dire 21h08min30s et une minute sépare les deux équipes. Hein.
Ouais, c'est rien. Disons que les Français, à un moment, le lundi, ils étaient pas les plus rapides. Le mardi, c'est pas les plus rapides. Et cette pénalité, finalement, les a boostés. Il faut dire aussi que le parcours était quand même assez à l'avantage des Français, qui avaient une équipe homogène. On dira quand même, Guy, qu'on n'avait pas nos meilleurs pilotes, puisque Antoine Méo était sur les rallyes raids. Pierre-Alexandre René a été blessé, donc il nous manquait. Christophe Lambotin a été blessé. Il nous manquait 3 des derniers champions du monde. Et malgré ça, on est avec une équipe que certains qualifiaient d'équipe B. Eh ben, la France gagne, parce que ils sont allés chercher la victoire. Ils ont été les plus rapides le jeudi, les plus rapides le vendredi. Ils ont abordé la dernière journée avec 2 minutes d'avance. Et ils ont géré cette avance. Ils finissent avec 1 minute d'avance sur les Australiens, qui ont tout essayé dans le cross final pour aller chercher cette victoire. Et je le disais, ils ont été assez mauvais perdants, les Australiens. Ils ont pas vu. Et les Français arrivés, c'est un peu dommage pour l'enduro qui a eu cette décision du jury qui n'a pas été forcément bien prise. Ouais, ça laisse planer un doute et ça a créé des tensions inutiles entre les pilotes, alors que les pilotes, ils ont fait leur maximum tous. Quoi.
Pour nos auditeurs, est-ce que tu peux rapidement nous dire comment se déroulent les 6 jours, hein. Il y a des spéciales de cross, etc.
En Slovaquie, il y avait donc un parcours qui faisait un peu plus de 100 km. Et puis ce parcours de liaison permet d'amener à des spéciales. Et il y a 3 spéciales à disputer à chaque tour. Donc il y avait 6 spéciales par jour à disputer, des spéciales complètement différentes, tracées soit dans la prairie, soit dans des parcours très accidentés. Alors c'était joli parce que la Slovaquie c'était une région de montagne, donc c'était quand même des très belles spéciales. Ça n'avait rien à voir avec l'Argentine l'année d'avant où c'était beaucoup de sable. Et donc pendant 5 jours ils font ces parcours en moyenne, ils font 250 km sur la moto, dont environ 40 km de spécial chronométré. Et puis le 6e jour, il y a ce qu'on appelle le cross final, qui est une course de motocross de 10 minutes qui permet de clôturer cette compétition.
Donc, et le temps, ça s'est disputé sous un temps clément, hein, d'après les vidéos que j'ai pu voir, ouais.
Oui, il y a eu un petit peu d'humidité à un moment, mais globalement, non, c'était des bonnes conditions. Ça s'est bien passé. L'épreuve avait été avancée au mois de septembre, alors que d'habituellement, elle est à la fin des championnats du monde. Elle a été mise en pleine saison, puisqu'il restait un Grand Prix à disputer, pour justement avoir des conditions météo correctes en Slovaquie. Les équipes et les pilotes n'aiment jamais disputer cette course avant que le championnat du monde individuel soit terminé. Mais bon, les meilleurs étaient là, même s'il manquait quand même quelques stars italiennes.
Bien, ben écoute Pascal, on parlerait du motocross, tout ça, pendant des heures et des heures, n'est-ce pas?
Oui, on est bien d'accord, Guy.
Et on va te voir à Lille, au Supercross, hein, j'aurai l'occasion de te serrer la main. Le prochain, tu vas aussi au Dakar, je pense.
À voir, écoute, le Dakar, malheureusement, je trouve que le parcours qu'ils ont cette année est quand même pas folichon, quoi. Parcours concentré sur l'Argentine, il manque le Chili, il manque le Pérou. On va voir si on repart pour là une belle aventure. Ce qui est intéressant cette année, c'est quand même qu'il y a des pilotes français de haut niveau qui reviennent au rallye raid. Il y a Antoine Méo, il y a Pierre-Alexandre Ney, puis il y a bien sûr Adrien Van Beveren. Donc oui. Ça redonne un petit challenge, un petit piquant. La décision n'est pas encore prise. Dans les semaines à venir, on saura si on repart à Dakar, parce que c'est aussi une épreuve, même en tant que journaliste, qui coûte très cher à suivre. Donc,
c'est certain. Très bien. Ben, écoute, Pascal, on te remercie chaleureusement de ton intervention. Et on aura l'occasion de revenir un jour, de t'appeler pour parler sur la radio.
Pas de souci, Guy. Bonne journée à tous. Bonne journée aux auditeurs. Et rendez-vous à Lille.
Hein. Ok. Merci. Allez, bye bye.
Another summer with no shoes on his feet and nothing on his plate.
Voilà, on reste dans le motocross avec un président de motoclub. De motocross, hein, que je connais bien, c'est Jean-Michel Sulski, Guy.
Et en effet, et puis c'est un ancien pilote de sidecar cross. Alors on va parler justement du championnat du monde de sidecar cross. Alors depuis 44 ans que le championnat existe, les champions sont soit suisses, allemands, hollandais, belges et même lettons. Mais cette année, grande surprise, enfin déjà l'année dernière, on avait vu avec Valentin Giraud et puis son passager Nicolas Musset qu'on a eu à la radio et à l'année passée, il termine deuxième du championnat du monde. Jean-Michel, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, toi, tu as assisté à un ou deux grands prix, je crois, de sidecar cross en Belgique ou en Hollande. Que penses-tu de cette performance de Valentin Giraud?
Oh ben Valentin, y a pas de souci. Hein. Je crois que bon, il va être champion du monde. Il faut attendre un peu. Le sidecar, c'est comme tout. Il faut quelques années pour mettre tout ça en place pour la réussite. Hein. Là, je pense qu'ils sont tout prêts. Bon, il va faire maintenant avec Bax devant. Bon, l'année prochaine, Adriansen revient. Bon, Mais il n'y a pas de problème, ils seront champions du monde. Il faut quelques années pour percer. Hein. Ça va arriver là, ça va passer.
Mais c'est-à-dire, ils ont connu aussi quelques déboires de casse mécanique hein, qui ont contribué aussi à cette deuxième place, peut-être aussi. Hein. Mais sinon, parce qu'à un moment, ils étaient quand même en tête du championnat. Hein.
Oui, il y a eu un peu de bon, Sagar sur les circuits, il y a aussi quelques mauvais départs hein, quand même, et puis un peu manque de réussite comme à Genk cette année, hein, ou un accrochage, ça repart pas tout de suite, et puis voilà, c'est pour rattraper, c'est trop tard quoi. Donc là, bon, il y a un peu de quelques mauvais départs, et puis après aussi quelques problèmes mécaniques comme à Saint-Jean où le quad repart pas, le side ne repart pas quoi.
D'accord. Parce qu'il faut remonter à une troisième place en 1991 de Gilles Mécène et Eric Morgan sur EML Kawasaki. Donc ça fait plus de 30 ans quoi, que y a des Français qui roulent en sidecar cross, mais à ce niveau-là, bon, c'est des bons augures, hein, ce trio quoi. Hein. Je voulais aussi te parler aussi du retour. Il a été 10 fois champion du monde, c'est Daniel Williamson.
Oui, bon, Daniel, c'est l'extraterrestre du sidecar cross, hein, il ne vit pas. Il est né sur un sidecar avec son frère, hein, ils ont roulé même chez nous à l'époque, hein, donc avec le championnat d'Europe IMBA. Tout jeune, ils étaient déjà devant et ils bonifient encore, hein, donc c'est vrai que c'est un guerrier. Hein, il faut être devant, hein. C'est un tueur de passagers. Hein, donc,
ah oui, un tueur. Non, parce que c'est le seul pilote qui peut changer de singe plusieurs fois dans la saison, lui. Hein.
Oui, en principe, rares sont ceux qui font une saison complète. Hein. L'année prochaine, il rechange encore, hein, donc il n'y a pas de problème.
Et Ben Andreasen, c'est-à-dire qu'il s'est blessé au pied, hein, sinon il était aussi... c'est un... Déjà un bon pilote, un bon client pour le titre. Hein.
Oui, c'est un bon client. Bon, là, je les ai vus rouler la semaine dernière. Bon, ben, il faut commencer à remettre ça en route. Hein. Là, c'est la reprise. Une assez méchante fracture au pied. Hein. Mais bon, je pense qu'ils vont s'entraîner tout l'hiver pour ça. Il n'y a pas de souci.
Pour revenir à Daniel Wilsem, il est pilote, mais aussi constructeur de châssis et de cadres. De sidecar, hein.
Oui, avec son père, enfin, ils ont remis ça un business là, avec de fabrication de châssis de WSP, hein, qui vont très bien d'ailleurs.
Mais toujours équipé de Zabel, lui, comme moteur, ou non, c'est suivant.
On met ce qu'on veut. Hein. Je sais que bon, il y en a beaucoup mis de KTM, maintenant d'Husqvarna, mais Yamaha revient bien avec nouveau les Yamaha quittés maintenant jusqu'à 600 cm3.
D'accord. Jean-Michel, une fois on discutait que tu allais peut-être faire disputer un championnat du monde sur ton circuit. Qu'en est-il
Ah ben ouais, c'est jamais abandonné, ce serait super. Le problème c'est que bon, il y a c'est énormément de contraintes, hein, énormément de travail. Là, il faut mettre tout ça en place. Il faut qu'on voit réellement avec la municipalité comment on pourrait faire. Bon, il faut savoir accueillir le public. Pour l'instant, c'est un peu ça le problème. Ils ont pas du circuit pilote. Parcoureur, ça, il n'y a pas de souci, tout est opérationnel. Pour l'instant, on a plus à voir où on peut mettre les spectateurs. Hein, donc, surtout, bon, voilà, ce sont quand même des amoureux hein, du championnat du monde de sidecar. Donc, si on compte à peu près, garer à peu près 200 camping-cars, il faut quand même trouver de la place pour les.
De la place.
Ouais, voilà, c'est un peu ça qui pose pour ça. Et puis, bien sûr, les finances. Étant donné quand même que, encore une fois, je suis toujours à regretter que les sports mécaniques, on est quand même... c'est inadmissible, par exemple, que la France a gagné les nations de motocross et qu'on n'a vu aucune image sur nos chaînes.
En effet, oui.
Enfin, ouais. Quand on voit 35 000 personnes qui chantent la Marseillaise, là, je pense que d'autres sports pourraient mieux de regarder et prendre exemple sur nous.
En effet. Bon, ben écoute, Jean-Michel, on te remercie de ce petit passage rapide, mais je voulais un expert En sidecar cross.
Mais il y aura encore du sidecar sur le circuit de Condé-sur-Escaut, il n'y a pas de problème.
On sera là pour les voir.
Après, Jean-Michel, si tu organises un grand prix de motocross, enfin de sidecar cross, tu auras 40 000 spectateurs, ça va faire rentrer un petit peu d'argent dans la caisse.
Ce serait bien parce que.
Tu penses que ce serait bien, non?
Ce serait mieux que la pluie qu'on a vue cette année. Pas de problème.
Allez Jean-Michel, bye bye.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Au revoir. Magazine de la moto, c'est tous les dimanches de 11h à 12h30 et nous avons au téléphone aujourd'hui, maintenant là, dans les secondes qui arrivent, Benoît Delemotte au téléphone bien sûr, Benoît qui est coordinateur de la Fédération Française des Motards en Colère, Benoît bonjour.
Oui bonjour à tous.
Première question Benoît, est-ce que tu es heureux, satisfait de la mobilisation hier des motards?
Oui, on peut être qu'heureux et satisfait vu la très forte mobilisation. On a des chiffres de l'ordre des forces de l'ordre dans les 1850 personnes. Nous, on compte plus entre 2005 et 3000. On nous parle ce matin de 15 000 en région parisienne, mais on est persuadé que c'est aussi beaucoup plus. Un impact national qui je pense fera bouger les choses, puisque bon, voilà, on a bien vu que partout en France, on savait s'organiser, on savait faire des manifestations d'envergure. Avec une très bonne couverture médiatique, enfin non, on peut qu'être heureux, tout s'est bien passé, pas d'incident, un très bon accueil de la part des participants et même des gens qui étaient impactés par cette manifestation. Donc non, très, très bien, très satisfait.
Donc on rappelle pourquoi les motards manifestaient hier, hein, parce que interdiction pour certains deux roues motorisées de rouler alors dans Paris, mais après Paris, ce sera forcément d'autres villes.
Oui, alors voilà, Paris, c'est la ville test. Hein. Paris a pris une décision arbitraire, antisociale, tout, voilà, enfin, tout ce qu'on veut, d'interdire les deux roues motorisées à partir du 1er juillet 2016, du lundi 8h au vendredi 18h, comme ils l'ont fait pour d'autres véhicules qu'ils considèrent polluants. Donc ça fait partie de la loi de transition énergétique. Alors, comme on dit, il y a des très bonnes choses dans la loi de transition énergétique. Il y a sûrement des efforts à faire au niveau de l'écologie, de la pollution. Par contre, on sait que partout en Europe, les deux roues motorisées ont été exclues de champs d'application. Voilà, donc nous, on demande juste d'être réétudiés. Hein. La loi de transition énergétique, elle n'est pas encore figée tout à fait. Mais il y a surtout aussi une autre façon de voir les choses. On considère, nous, que mettre une année 2000 sans aucune explication, et encore à l'heure actuelle, quand on questionne le ministère de l'écologie, pourquoi les véhicules d'avant 2000, ils ne savent pas nous répondre. Nous, on dit depuis toujours que le deux roues motorisées est une solution et pas une pollution, mais on n'a pas d'explication en face, quoi. Donc oui, la loi de transition énergétique, d'accord, mais sous certaines conditions, et surtout pas une interdiction de circuler, puisqu'on sait tous que le deux roues motorisé facilite les déplacements en ville et en extra-urbain. Donc il n'y a aucune raison qu'on fasse partie de ce champ d'application.
Très bien. Alors on parle aussi, alors on va parler de ce fameux retour du contrôle technique. Alors là, hein, l'Europe nous l'avait retoqué en 2012.
Ouais. Et la France nous avait soutenus à l'époque, hein, puisque on avait surtout réussi à obtenir que ce soit les États membres qui décident s'ils en veulent ou pas. En 2012, la France nous dit non, c'est bon, contrôle technique, il n'aura pas lieu. Et pour finir, là, ils repassent par la petite porte. Bon, faut savoir que voilà, ils se laissent 2 ans pour mettre en place. Ils savent pas encore combien ça va coûter, qui va réellement faire. On sait aussi que, à côté de ça, ils ont des réunions informelles avec des centres de contrôle technique. Donc voilà. Donc c'est une mesure qui tourne, qui parle, qui fait discuter. Faut savoir qu'il y a 20 ans, on a mis aussi le contrôle technique à la vente pour les véhicules de roues, enfin 4 roues plutôt, et que maintenant on y a droit tous. Donc voilà. Faut rester vigilant, mais pas trop se formaliser. Je pense que c'est surtout une mesure qu'ils se sont un peu sentis obligés de prendre. Comme je dis souvent, c'est de la politique spectacle. On en est malheureusement réduit à ça. Ou pour essayer de faire de faire peur aux gens, ils pondent des mesures comme ça qu'ils savent très bien où ils veulent, hein, où ils veulent arriver, quoi. Donc c'est un peu assainir le marché du véhicule d'occasion, comme ils disent, mais c'est aussi un petit peu le bâton pour dire attention, vous savez, vous allez avoir la libération de la puissance avec la loi des 100 chevaux qui tombe au 1er janvier, mais on vous surveille, on fait attention à ce que vous faites, hein. Donc voilà, c'est de la politique spectacle. Bon, on est vigilant, on reste concentré, on reste mobilisé, puisque pour nous, il est hors de question que le contrôle technique se mette en place, que ce soit à la revente ou pas à la revente, ou sur n'importe quelle forme que ce soit. La FFMC s'est toujours fermement opposée à la mise en place du contrôle technique et restera opposée. Et on compte sur vous si on a besoin pour se remettre dans la rue pour leur dire qu'on n'est pas d'accord et que c'est juste une histoire de pognon et qu'on n'en veut pas. Voilà.
Très bien, oui. Alors il faut se méfier, hein, parce que moi j'ai vu ça un peu là, sur Internet, j'ai été fouillé un peu dans les archives et le contrôle technique pour les voitures avait débuté de la même manière, à la revente. Et puis maintenant, on sait où on en est. Hein.
Voilà, non, bien sûr. Voilà. Donc il ne faut surtout pas le laisser rentrer, que ce soit par là.
Ça, c'est clair. Si ça rentre par là.
Non. On n'en veut pas. Ça, c'est clair et net. On fera tout ce qu'il faut. On a déjà mis la pression, nous, sur certains organismes de contrôle technique. Et on continuera à mettre la pression. On continuera à faire ce qu'il faut pour que ça ne passe pas. On a déjà réussi une fois. Il n'y a pas de raison qu'on réussisse pas encore une cette fois-ci. Et de toute façon, la FFMC reste opposée au contrôle technique sous quelque forme qu'il soit.
Voilà. Et puis, il y a aussi le durcissement du permis de conduire moto, hein, parce que maintenant, le passage à la puissance illimitée, ce sera pour tout le monde, pour les gens qui ont 50 ans, ils vont devoir faire leur classe, on va dire.
Voilà, ils ont mis ça en place. Voilà. C'est pas forcément une mauvaise mesure, parce que bon, on sait tous que la plupart des accidents arrivent avec des permis novices, des personnes qui n'ont peut-être pas sorti de permis, tout à fait l'expérience qu'il faut pour conduire la moto. La moto, ça s'apprend, c'est pas quelque chose de facile. Pourquoi 2 ans, on sait pas. Cette mesure, elle vient de nulle part. On n'en a jamais entendu parler dans le comité interministériel de sécurité routière dans lesquels on fait partie, hein, voilà, donc on sait pas trop, c'est, mais comme je dis, c'est, voilà, c'est une mesure qui passe parmi tant d'autres en disant, bon, on va leur mettre un gros paquet cadeau qui est le contrôle technique, la fausse obligation d'équipement, puis derrière, on nous fait passer une petite mesure comme ça qui est, voilà, qui est, bon...
Alors,
je dirais pas sans importance, mais voilà, bon, 2 ans, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Non plus. Bon, après, voilà, je pense que il faut relativiser un peu les choses. Tout n'est pas mauvais, mais pourquoi 2 ans, pourquoi à tous, voilà, pourquoi, voilà, ouais. C'est toujours un peu compliqué de savoir, voilà, ce que le gouvernement entend faire.
Et pour le dessert, ben voilà, 500 radars supplémentaires, hein,
oui, bien sûr,
plus de 10 000 radars l'heure,
voilà, ouais.
Et encore mieux maintenant, des routes surveillées par des drones.
Oui, oui, oui.
Ça va s'arrêter où? On a peur, tu vois, maintenant.
Bien sûr. moi, je pense qu'il serait mieux de privilégier un peu plus de force de l'ordre sur le terrain. Je préfère me faire engueuler par un humain que par une machine sans fondement et surtout sans considération de ce qui peut se passer autour. Mais c'est encore une fois de la répression, sans aucune concertation et sans mesure efficace, quoi.
Ce gouvernement, il va devoir se méfier, hein, parce que c'est dans 19 mois, hein, c'est les élections, hein. Faut pas qu'il se mette en plus une catégorie d'usagers qui pourrait éventuellement voter pour d'autres personnes.
Bien sûr. Puis il faut pas oublier que là, bah, bientôt, il y a les élections régionales.
Et oui.
C'est aussi important.
Bien sûr.
À ce moment-là. Ouais. C'est aussi important de montrer qu'on est citoyen, qu'on n'est pas forcément d'accord. Les élus locaux, on peut tout à fait les interpeller. La plupart du temps, ils sont maires de commune ou députés ou sénateurs, tout ça. On sait les rencontrer, on sait où les trouver. Ouais. On sait parfois s'expliquer sur une place de marché et faire passer les bons messages.
Voilà.
On peut les rencontrer à ce moment-là, quoi.
D'accord. Bon, écoute, Benoît, on reste à l'écoute, hein, forcément, hein, et vigilant, hein, parce que là, voilà, sinon.
On compte sur vous.
Ben voilà, bien sûr. Et donc
on
hier.
On attend vous, mais on fera beaucoup avec vous et avec tout le monde.
Impeccable. Écoute, on a fait un peu d'interview et puis voilà, on va passer à un motard qui est vraiment pas content. Hein, ça dure pas longtemps, ça dure 1 minute 15, je crois, mais d'accord, il est pas du tout content. Donc on te remercie d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
Ok.
Benoît.
Pas de soucis, à votre
et puis on se reverra peut-être dans les éditions prochaines. Prochaine.
D'accord, pas de problème, je suis là.
Merci Benoît.
Merci à vous.
Voilà, j'ai rencontré un autre motard, hein, qui va participer à cette manifestation, c'est Nico. Nico, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi tu es ici aujourd'hui, Grand Place à Lille?
On est tous là parce qu'en fait, le gouvernement n'a rien trouvé de mieux de dire que les motos d'avant 2000... pollués. Donc, soi-disant, on n'a plus le droit de rentrer en ville avec des motos d'avant 2000. En même temps, le gouvernement, il remet des bus. On a vu que la loi Macron, ils remettaient des trafics de bus. Bien sûr, un bus, ça pollue pas. Par contre, 2-3 vieilles motos qui traînent d'avant 2000, c'est elles qui vont polluer. Donc, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Voilà. En plus, on nous reparle du contrôle technique visuel. Alors, sur une moto, il n'y a rien à démonter. C'est visuel. Il n'y a rien à mettre sur un pont. On fait le tour de la moto. On voit bien si ce qui cloche et ce qui cloche pas. S'il y a un câble de cassé, si les pneus sont usés, ça se voit visuellement. Il n'y a pas besoin de démonter comme sur une voiture ou de lever sur un pont. Et ils veulent nous imposer ça, payant évidemment, lorsqu'on vendra notre moto. Donc il faut pas abuser non plus. Donc voilà, moi je suis là et on va partir, je crois, faire une petite balade pour manifester notre désapprobation vis-à-vis du gouvernement.
Bien, merci Nico. Ouais, effectivement, tout le monde prépare, monte la machine et démarre les moteurs. Et bien, ce sera une belle manif, j'espère. Voilà, retour sur l'information tout terrain avec Guy Pilarczyk.
Oui, alors on parlait du motocross, le motocross, la saison est finie. Et c'est maintenant le début des championnats de France, des courses sur sable. Et la première épreuve a lieu aujourd'hui à Berck-sur-Mer, avec le Beach Cross. Et nous avons au téléphone Patrick Lamoureux, vice-président de la FFM, vice-président de la commission course sur piste et président du comité des courses sur sable. Patrick Lamoureux, bonjour.
Bonjour.
Voilà, j'espère que vous avez les pieds dans l'eau avec un parasol. Comment est le temps sur la plage de Berck?
Magnifique, magnifique. Comme très bon dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a toujours du très beau temps.
Du très beau temps. Donc, est-ce qu'il y a déjà des courses qui ont lieu ce matin?
Oui, oui. Les joueurs ont déjà fini leurs manches, et les juniors aussi, à l'instant.
À l'instant. Au niveau des pilotes engagés, on parle de presque 600 pilotes engagés dans toutes les catégories?
Oui, un tout petit peu moins de 600, mais ça fait de très 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 belles courses.
Alors, cette année, le calendrier des sables a 6 épreuves, c'est bien ça?
6 épreuves, oui.
Ah, Berck, le mois prochain, à Long Plage. Qui avait l'année dernière n'avait pas de n'était pas inscrit au championnat des courses sur sable, je crois.
Hein. Non, l'année dernière, le club avait préféré l'impasse, et donc il revenait dans le giron de la fédération.
De la fédération.
Le championnat de...
On parle aussi du retour de Formaon.
Oui, Formaon, c'est l'année dernière, mais il y a quelques soucis avec le sous-préfet.
Voilà, ouais, c'est ça.
Environnemental. Ouais. Donc, on ne va pas détailler ici. Donc, ça l'aboutira, mais il faut prendre un peu de temps pour régler tous les problèmes.
Au niveau des pilotes, cette année, le champion titre, Adrien Van Beveren, est absent de la course, puisqu'il va disputer... Pour Yamaha, le Dakar 2016. Par contre, nous avons quand même Steve Ramon, le Belge, qui avait gagné l'année dernière sur cette piste, mais bien qu'il ne marque pas de points pour le championnat de France, hein, bien sûr. Et nous avons aussi Jean-Claude Mousset et Milko Podisek, les pilotes les plus en vue, non?
Alors, oui et non, dans ce que vous venez de dire. En fait, depuis le 1er juillet 2015, la fédération, comme toutes les fédérations européennes, autorise les pilotes étrangers à en championnat, du moment qu'ils sont licenciés. Donc, bien, Ramon.
Il y a un petit problème technique.
Oui, un petit problème technique, on l'entend très très mal.
Vous m'entendez là?
Ah là ça va mieux, oui.
Évitez de bouger parce que c'est haché.
Oui, donc en fait, si vraiment ayant pris sa licence au Touquet Automoto, il va participer au championnat de France et il sera classé comme tous les autres.
D'accord. Voilà. Les courses comme, par exemple, l'apothéose, ça sera l'enduro du Touquet.
Oui.
Et je voudrais savoir aussi, est-ce qu'il y a sur ces épreuves, est-ce que vous avez des pressions des écologistes, parce que tous les ans on en parle.
Des pressions écologiques, oui, on en a toujours. Se règle quand tout le monde y met du sien.
D'accord. Donc, en effet, oui. Donc, le championnat 6 épreuves, est-ce qu'il y a d'autres villes côtières qui demandent d'organiser ces courses sur sable?
Oui, ça se réveille puisqu'on est en augmentation de 30% au niveau des engagés pilotes et de l'intérêt qu'ils y portent. On a Saint-Georges-de-Didonne qui voudrait revenir, on a Marmoutier, mais tout ça ce sont des projets et il faut qu'ils aboutissent parce qu'il faut aussi respecter justement l'environnement.
Oui, en effet, oui. À Berck, vous avez combien de catégories? Il y a les juniors,
Les juniors, donc 125 et 254 ans, moins de 18 ans. Les espoirs, qui sont plutôt de 11 à 16. Ensuite, on a une catégorie vétérans pour nos anciens qui ont toujours envie de rouler. Ensuite, une autre catégorie. Là, il y a deux catégories pour arriver à une finale ici, qui comptera pour le championnat de France.
Pour le championnat de France. Par contre, suivant les étapes, enfin suivant les épreuves se disputent pas de la même façon. C'est-à-dire qu'à Berck, vous avez trois manches, c'est ça, de 20 minutes. Alors que, par exemple, je prends le Touquet, c'est une seule manche. Et dans les autres épreuves, par exemple à Saint-Léger ou Osgore, ça marche comment ?
En fait, on n'a que quatre catégories principales, où il y a toujours les espoirs d'un côté, les juniors de l'autre, ensuite la catégorie moto et la catégorie quad. La catégorie moto, où il y a toutes les cylindrées, les vétérans, pareil bien entendu.
D'accord. Bon ben voilà, Monsieur Patrick Lamoureux, on vous remercie d'avoir répondu à quelques questions. Et puis nous reprend la route pour essayer d'aller voir bon, au moins la finale hein, qui se déroule vers 17h, c'est bien ça ?
C'est ça.
Ok.
Au revoir.
Voilà, on reste toujours dans le domaine du tout-terrain avec... d'ailleurs, si je vous dis, alors, Luc Cotterel, Christine...
Mais écoutez, dit, c'est...
Voilà, il y a un gars qui est derrière la vitre qui nous fait signe. Oui, ça, c'est un homme. Un vrai, un dur, un tatoué.
C'est Terre Propice.
Terre Propice. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce gars ?
Qu'est-ce qu'il a fait, Terre Propice ? Mais quand on regarde son petit flyer, eh bien, là, on voit l'Afrique.
Voilà.
Donc, on se dit que, bien, voilà, cette endurance de longues semaines, mois, ça s'est passé en Afrique.
Alors, 87 300 km sur les pistes de l'Afrique en moto. avec une BMW 1150. Hein. Donc, Luc Cotterell vous invite au voyage. C'est lui, désormais, qui vous invite à voyager. Et se tourne vers nous et vers vous, chers auditeurs, pour la réalisation d'un film documentaire.
Et oui, effectivement. Et là, justement, on a une bande-annonce qui est superbe, qui est pleine d'émotions et qui, on va vous passer.
Et oui, Christine. Mais comment réaliser un film documentaire? Il lui faut 8000 euros. Voilà. On y arrive. 8000 euros. Donc, ce film sera donc auto-partagé.
Auto-partagé justement nous, les auditeurs, grâce justement aux dons qu'on peut apporter. Et ces dons-là, on peut les apporter sur mymajorcompany.com. Là, vous allez retrouver Terre Propice et là, vous cliquez, vous regardez, vous cliquez, vous choisissez la somme que vous voulez donner et vraiment, ça serait super parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a à peu près 6000 euros, déjà de dons. Et donc, c'est jusqu'au mois de décembre. Donc, allez-y, n'hésitez pas parce que c'est vraiment magnifique.
Alors, ces joies, ces rencontres, mais aussi parfois les difficultés qui feront de cette aventure la plus belle aventure de sa vie. Voilà. Et on va vous faire écouter, parce qu'il a réalisé une bande-annonce qui dure 2 minutes 30. Et vous allez voir un petit peu ce que va donner le film.
Je dessine des maisons.
Ici.
Là-bas en France.
Ici, là-bas.
Ouais.
Pourquoi tu laisses là-bas, tu viens ici?
Je sais pas, j'en avais marre.
Février 2012. Je quitte ma zone de confort et pars au guidon de ma moto. Rêve latent de gamin obstiné aux rébellions. Belle fuite en avant ou serment à ma liberté. Peu importe. Cette fois-ci, le plan, c'est pas de plan. De Dunkerque à Cape Town, en descendant par l'ouest et en remontant par l'est, jamais seul, toujours entouré par les miracles de la vie, je franchirai d'innombrables frontières inconnues. Une leçon de vie de 87 000 km sur plus de 2 ans et demi. Face aux autres, à l'étrange et à l'étranger que j'étais.
Il vient de la France avec la moto. Ça fait 5 mois que je roule.
5 mois.
You're on your own.
Oh là, mais...
J'ai oublié comment on dit merci.
Dialama.
Pourquoi vous faites la moto que dans la voiture?
Un périple parsemé, parfois de frissons, de quelques galères,
I lost all my water on the way. 5 liters.
Shit. Santé.
De beaucoup de joie, de culture fascinante. D'échanges immobiliers.
Comment voilà. Tu appelles ça? Donc on est, c'est cette fameuse bande-annonce du film que Luc Cotterell voudrait réaliser, mais il lui faut de l'argent, il lui faut 8000 euros. Il est à peu près à
6500.
Alors 6500.
Oui, c'est ça.
Attention, ça va durer 3 mois la contribution. Donc normalement, on devrait pouvoir
c'est bien
y arriver.
Parti.
C'est bien parti quand même.
Donc sur MyMajor, vous verrez sur la bande-annonce les images. Et alors ça donne encore plus d'émotions. Moi, chaque fois que je la regarde, mais c'est des émotions vraiment impressionnantes.
Et vous savez que Luc, en parlant de film, en traversant le désert de Namibie, il a tombé sur le tournage de Mad Max.
Oui,
exactement.
Donc il aurait pu faire une cascade.
Ah, il aurait pu faire quelque chose, oui.
Il aurait cassé la moto.
En fait, il en a fait des cascades, ça, il n'y a pas de problème.
Voilà. Donc, et il précise que si la récolte des 8000 euros, si c'est dépassé, le surplus sera investi dans davantage de communication avec Expo Photo. Et exemple, par exemple, dans les écoles, il pourra se déplacer dans les écoles et montrer son voyage et puis faire expliquer aussi, faire l'explication de texte, des projections, mais aussi dans l'édition d'un carnet de voyage photo ou même d'un livre. Voilà.
Effectivement, c'est ses projets.
Donc on retrouve donc, on rappelle, Luc Cottrel sur...
Alors pour justement donner un don, c'est sur mymajorcompagnie.com. Donc vous cliquez là-dessus, c'est Terre Propice, hein, le projet. Et puis sinon vous pouvez aller aussi sur son blog, hein, parce qu'il a écrit toute son aventure jour par jour. Mais super. Oui, ouais.
Vous donnez 10 balles, vous donnez 20 balles, tout ce que vous voulez, mais participez, quoi. On entend bien qu'il y a de l'émotion dans déjà rien que dans la bande-annonce. Voilà les musiques.
So our new record is called... The new record is called If the River Was Whiskey. Now, I want you all to think about that for a second. Okay, that's enough. This next song is called If the River Was Whiskey.
Voilà, on quitte un peu le tout-terrain, hein, Guy.
Eh oui.
On se retrouvera donc le mois prochain, ce sera le 1er novembre, je crois. Donc oui, ce sera le 1er novembre. Parce qu'on parlera du Supercross, Bercy, mais qui se passe à Lille, en fait.
Qui se passe à Lille, oui, hein, en effet.
On parlera aussi de Roselard, aussi.
De Roselard, du salon de Roulers.
De Roulers, c'est Roselard.
Roselard, c'est en flamand.
Ah, c'est en flamand, d'accord.
Et comment s'appelle la manifestation à Roselard?
Ah, c'est une colle.
La manifestation, mais moi, c'est sur le calendrier. C'est sur le calendrier, une page 39.
Vétéran Motor Run.
Ouais, voilà.
C'est le club. C'est le club.
C'est le club. Le plus grand club de moto ancienne de Belgique, je crois.
De Belgique, oui.
Combien sont de membres?
Il y aura à peu près 500 membres, mais il y a à peu près 2000 ou 3000 motos
exposées
qui appartiennent aux sociétaires.
Et cette année, le thème de la manifestation, c'est la moto belge, là.
La Sarolea.
Sarolea.
Une moto qui a fait de la vitesse et du cross et du tourisme, bien sûr.
Voilà, c'est la 32e bourse d'échange et show cyclo. Alors show, le show, hein, la fête, le spectacle. Et scooter et moto. Donc ils précisent dans leur annonce hein, que ben voilà, c'est une expo de plus ou moins 35 motos thème. Sarolea,
oui.
Bourse multimarque près 1980 dans une salle, attention, chauffée.
Hein,
pour vous mesdames, n'est-ce pas Christine?
Bien sûr,
voilà,
pour nous les dames.
C'est très important, avec toilette, parce que vous avez toujours envie de faire pipi, donc voilà.
Sauf qu'à Rollers, il faut
nettoyer toutes les heures. Voilà.
Il faut payer.
Il faut payer.
Oh, Rollers, il faut payer.
Ah, il faut payer. Ah, oui.
Pour les dames.
Pour les dames.
Il n'y a pas de
petit
boulot.
Mais oui, on ne peut pas les faire pipi derrière une voiture, une moto.
Il y a également aussi un bar très bien fourni en picombière, si vous voulez l'exotisme jusqu'au bout.
Ah, c'est vrai.
Mais c'est la recette, ça. Ils ont un truc, moi, ça s'appelle...
Oui, c'est spécial...
Il y a un nom, enfin bon, bref, voilà.
Outland piquant.
Outland. Et enfin, et Outland, vous savez ce que ça veut dire?
Ça veut dire quoi, Outland?
Les terres basses.
Non, ça veut dire... Non, ça veut dire terrain de bois.
Terrain de bois. Ah oui, terrain de bois. Dans les terres basses. Très bien.
Sauf que, n'oublie pas que le samedi, il y a encore du picron et puis du Outland, mais le dimanche, il n'y en a plus.
Excusez-moi de changer de sujet. Donc, on a bien noté cette manifestation en Belgique, mais il y a aussi, plus près de chez nous, à Comines.
Voilà,
Comines,
le salon
France,
de Comines.
Qui... Le 31 octobre, le salon de Comines, organisé par notre ami Christophe Marquis, hein, et qui donc va est sur le thème de la moto de compétition. Et on va avoir énormément de machines de compétition, donc, mais aussi un peu de préparation qui seront exposées. Il y aura notamment un stand Kikinkou avec les motos qui ont participé à l'endurance à Croix-en-Ternois, à la fois l'équipage masculin et l'équipage féminin. Donc on aura les motos Guzzi, on aura la Ducati Ponta, on aura également des Yamaha préparés, etc. quoi. Donc de très très belles choses, je vous invite à y aller, c'est 5 euros l'entrée.
Et tu parlais de moto, et on aura aussi une exclusive, une moto de course en glace.
Tout à fait.
Avec Claude Kedem.
Oui, la course en glace.
Voilà.
Oh, alors là, d'accord.
Avec, il aura affûté ses
gros clous.
Ses points.
C'est bon. Très bien. Et puisque tu parlais du championnat du monde français, hein, MX, GP.
Oui.
Hein, tu rappelles le nom?
Romain Fèvre.
Voilà. Voilà. Ben, aujourd'hui, on peut aussi fêter. Qui, Christine?
Eh bien, en MotoGP2, Zarco, qui est donc champion du monde.
Johan Zarco est champion du monde. On a encore un Français. Donc, ça marche bien en ce moment.
Ouais,
voilà,
la
Marseillaise, j'ai encore regardé le Grand Prix ce matin. Et il a encore fini, il a terminé premier. Et forcément, c'était la Marseillaise qui était là-bas au Japon, sur le circuit de Suzuka. Voilà.
En même temps, c'est le résultat d'un très très long travail, quand même.
Et ce type, il est incroyable. Il reste
très zen,
tranquille, il a gagné. Mais ça va peut-être nous faire un champion du monde en MotoGP, peut-être.
On peut rêver.
Pour l'année prochaine.
Il
va encore rester l'année prochaine en Moto 2 et peut-être après en 2017, peut-être en Moto GP parce que KTM apparemment prépare quelque chose, on ne sait pas trop. Et puis il serait peut-être bien pilote officiel KTM. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Hein. Voilà. Guy, on termine un petit peu le programme.
Eh ben, je voulais parler parce qu'on en parlera le 1er novembre. C'est du Supercross de Lille qui déménage de Bercy à Lille. Je crois qu'il va rester à Lille et ça va se dérouler sur 2 jours que je mets mes lunettes que pour faire les dates. Ça sera le 14
novembre.
C'est le 14 et 15
novembre.
14 et 15 novembre, oui. Donc on va voir Romain Fèvre, le champion du monde en titre.
Ah, il sera là.
Il sera là.
Ah, oui, d'accord.
Et aussi Livia Lancelot sera là aussi. Ouais. Mais dans la course du championnat de France et CX2, hein, pas avec les cadors américains et tout, parce que bon, t'as vu, c'est quand même un point.
Ah, mais il n'y aura pas le champion du monde, là, aussi, ici à Lille. Comment il s'appelle
L'américain.
Oui, un américain. Je ne sais pas, non, non.
Je ne sais plus.
Stewart, non, c'est pas Stewart.
Ah oui, James Stewart. Ouais. Et son frère aussi.
Et voilà.
Et son frère qui s'appelle Malcolm Stewart.
Je suis pas trop professionnel en motocross, mais voilà.
En effet. Et puis aussi Milko Podisek qui s'est blessé l'année dernière.
Je le connais.
Ah, mais aujourd'hui.
Il revient.
Voilà. Il revient et aujourd'hui il roule à Berck. Bravo. Et il sera sous les couleurs flamandes. Parce qu'il
fasse attention. Voilà. Et puis si vous voulez manger un super couscous au mois de novembre, avec de l'ambiance, tout, c'est simple, hein, c'est le 21, c'est à Goncourt. C'est organisé par Kikinkou des Topal. C'est pas cher. Il y aura un super groupe et une super sono cette année. Voilà. On termine l'émission. Guy, merci pour toutes ces infos. Christine, alors super aujourd'hui, tu vois. Là, c'est vraiment excellent. Voilà.
Merci.
Et donc,
pour une fois. C'est
en fait, il m'a changé de place. Du coup, il m'oublie pas parce que je suis en face de lui.
Bonne idée. Merci, Locke.
Merci, merci.
On se retrouve au salon de Comines, hein, le 31 octobre.
Voilà.
Samedi.
Et dimanche prochain, je crois que c'est une émission.
Alors, avec Christophe Marquis, il va nous raconter son histoire de Space Peak, là, parce qu'il a terminé 3e, il est monté sur le podium aussi. Les Vintage. La montée vers une image. Voilà.
Tout à fait. Ouais.
Très bien. Merci. Alors, le dernier, on laisse toujours le dernier mot à
notre
ami.
C'est sûr, t'as dit
Lolo.
T'as tout dit.
J'ai tout dit.
C'est bon. Alors, au revoir.